Les Vicinales. Une émission de Robert
et Michel Giroux.
Bonjour à vous. Bienvenue, chers auditeurs, chères auditrices de Radio Grand Ciel, à cette nouvelle émission Les Vicinales.
Émission à propos de laquelle je n'ai aucune idée de ce qui va se dire, attendu que je n'en ai pas fichu une rame. Cette émission est donc de Michel Giroux aujourd'hui. Et peux-tu nous dire où l'émission nous emmène cette fois ?
À Ono, au jardin de la préhistoire.
Ah, très bien. Et comment as-tu atterri là-bas ?
Alors, en septembre, le professeur d'histoire du Collège Saint-Jacques de Compostelle a organisé une sortie au jardin de la préhistoire à Ono pour les élèves de 6e. J'ai accompagné et j'ai découvert un site très intéressant, passionnant.
Donc tu as fait un reportage sur cette sortie, je suppose.
Oui, j'ai fait des petits reportages pour Radio Saint-Jacques. Ils ont déjà été diffusés. Mais à midi, pendant la pause, j'ai abandonné les élèves, les collègues, pour aller interviewer Jean-Pierre Dubois, le vice-président de l'association qui a conçu le jardin de la préhistoire à Ono. Et c'est lui que nous allons écouter. C'était la pause. En fond, on entend les élèves, bien sûr.
Bon, Jean-Pierre Dubois, vice-président de l'association.
Le jardin de la...
Les jardins de la préhistoire. Et vétéran de fouilles archéologiques à Ono.
Comment tout a commencé ?
Par un tas de pommes. Sous le tas de pommes, il y avait un squelette que des gens avaient caché, qu'ils avaient trouvé, des chasseurs avaient trouvé un squelette. Et pensant que c'était un squelette d'un soldat allemand tué pendant la dernière guerre et enterré dans le bois, pour ne pas être embêté, ils l'ont caché sous un tas de pommes qu'il y avait là. Et puis néanmoins, ils nous ont avertis. Et ça a avéré que c'était effectivement un squelette vieux de 5500 ans à peu près, hein, ce qu'on appelle du chasséen. Mmh. Et effectivement, et on a fouillé à l'endroit où ils ont trouvé ce squelette, et on en a retrouvé cet autre. Voilà, qui s'étache sur une période de 10 000 avant le présent à 4 500 avant le présent.
D'accord.
Voilà, c'était...
Et vous étiez déjà une petite société
Oui. On s'occupait avec un vieux curé que j'aimais beaucoup, l'abbé Nolan, pour ne pas le nommer. On travaillait sur des souterrains aménagés dans la région et dans le Loiret.
D'accord.
Et puis l'abbé nous a tout doucement initiés, non pas au silex, parce qu'il était aussi un mordu du silex. Et ben voilà.
Et donc, on en est où maintenant, à partir de ces squelettes? Ces squelettes vous ont amené où?
À la retraite. Et on a fouillé pendant 32 ans là-bas. Hein, et on a pu mettre en évidence cette magnifique maison circulaire. On ne connaissait pas à l'époque, tout au moins on les connaissait à l'époque, mais ils n'étaient pas vraiment bien attribués dans le temps. On les pensait bronze, voire gaulois, puisque ces fameuses maisons circulaires gaulois qui n'ont probablement pas existé ou très peu. Là, par contre, on a pu la caler vraiment dans le temps, la dater, et c'est 5005 avant le présent. C'est ce qu'on appelle le chasséen.
D'accord. Et donc, vous avez eu l'idée, après avoir trouvé tout ça, découvert tout ça, vous avez eu l'idée de créer quoi exactement ?
L'idée de...
De créer quoi ?
Dans un premier temps, on a voulu revoir le volume que pouvait représenter cette maison de cette période. Il faut savoir que c'est une petite maison. Hein. Mmh. Les périodes avant, les maisons sont plus grandes. C'est les Danubiennes qui feront jusqu'à 30-40 mètres. Et ensuite, on va retomber sur des périodes plus récentes où les maisons, comme à Moulins-sur-Seyfond, font plus de 100 mètres de long. Hein.
D'accord.
Ici, c'est une petite maison. Mais c'est suffisant pour une unité familiale élargie. Hein.
Donc en fait, vous avez trouvé les restes de cette maison?
On a retrouvé les restes, vous n'avez pas tout suivi, vous. Hein.
Non, parce que avec mon groupe, nous n'avons pas encore visité
d'accord. La maison. Ah d'accord. On a retrouvé les trous de poteaux au sol. Vous savez, cette maison, vous avez vu, c'est fait avec des poteaux. Ils ont creusé une tranchée, et dans cette tranchée, ils ont établi ce qu'on appelle des caissons. C'est-à-dire ils ont calé les poteaux avec des pierres. Mmh. Et quand les poteaux ont disparu, on a un phénomène de caisson, puisqu'en fait, il n'y a plus le poteau, il n'y a plus que les pierres qui restent. Et tous les 50 cm, on avait ce caisson. Donc on a pu, avec beaucoup de précision, déterminer les ouvertures et la surface au sol de cette maison.
Et comment on détermine que le toit était en chaume ?
C'est simplement une proposition. La hauteur, c'est pareil.
D'accord.
Par contre, on est parti sur des choses bien simples pour la faire. On a travaillé avec des artisans pour le chaume. C'est vrai que ça aurait pu être en bardeau. Ça aurait pu être pas grand chose d'autre, chaume, bardeau.
On ne sait pas comment les toits étaient construits.
Non plus, il faut être honnête. On a des trous de poteaux au sol. Ça, 2 cm au-dessus du trou de poteau, c'est une hypothèse.
D'accord.
Le poteau pouvait être tordu complètement, on ne sait pas. Mais disons que, on peut supposer que ces gens vivaient dedans.
Oui.
Donc, fallait qu'ils tiennent debout. On est parti sur la hauteur d'une personne debout, 1m80, 2m. Puisqu'on a mis du chaume, le chaumier nous a dit « Faites attention, ils avaient des animaux domestiques, chèvres et moutons, depuis Capridé, et ils vont manger de chaume. »
D'accord.
Donc, il faut mettre ça hors de portée de ces animaux. Et les animaux en question, les chèvres, pour manger du chaume, sont capables de se mettre debout sur les pattes de derrière. C'est-à-dire que c'est 1m80. Donc, on a une marus bêtement d'1m80. Et ensuite, comme vous verrez tout à l'heure, à l'intérieur, il y a une bâtière qui coupe la maison en 2/3, 1/3. C'est-à-dire que d'un côté, le toit est plus pentu que l'autre, puisque cette bâtière sert de ferme pour le toit.
D'accord.
Donc il est plus pentu. Donc on a en dessous de 45 degrés, un toit en chaume n'est pas étanche ou mal. Donc on a donné la partie la plus basse 45 degrés et l'autre doit être à 55-60. Voilà pourquoi la forme de cette maison.
D'accord. Voilà. Et vous continuez de fouiller ?
Non, j'ai arrêté. Maintenant, c'est passé en réserve archéologique. Il faut savoir que le site fait au moins 1 hectare, voire plus. Et on a fouillé 20%.
D'accord.
20%. Le cimetière, on a arrêté. On n'a pas fouillé l'atelier de taille du grès, qui est 5005. L'atelier de taille du grès, on l'a pas. C'est énorme, un énorme atelier avec des puissances de rejet de déchets de taille de parfois un mètre, plus d'un mètre d'épaisseur, mais avec beaucoup, beaucoup de mobilier à l'intérieur. Mais ça, on ne l'a pas touché. On n'a pas fini non plus. On a probablement des parties du bronze moyen, on ne les a pas touchées. Et dernièrement, venait d'apparaître, quand on a arrêté, du gallo-romain, ça on l'a fouillé, c'était un four à chaud, et surtout du gaulois,
d'accord,
ce qu'on appelle l'Athènes finale. Donc là aussi, on ne l'a pas touché. Donc il y a un gros potentiel encore là-haut.
Donc oui, la société a encore de...
Ah oui, beaucoup. Mais je pense que ça va passer comme ça n'est pas en danger. Il y a d'autres urgences à faire. Donc ça peut rester en gel.
C'est pas en danger, pour quelle raison ?
C'est au milieu des bois.
D'accord.
C'est au milieu des bois, donc ça a été des fouilles programmées. Ce n'était pas des fouilles d'urgence.
D'accord.
Donc on a fouillé pendant 30 ans en fouilles programmées.
D'accord.
Mais c'était très, très, très riche. Et
voilà. Vous êtes tous des bénévoles, donc.
Alors... oui, on est tous bénévoles. Enfin, on avait aussi des gens rémunérés, puisqu'on a travaillé avec la DRAC.
Oui.
Et puis, on servait aussi de chantier référence pour les étudiants en archéologie.
D'accord.
Voilà.
Bien, mais qu'est-ce qui motive un bénévole à s'investir ?
Je me suis toujours posé la question. Ma femme aussi.
Moi aussi, puisque je travaille à Radio Grand Ciel. Qu'est-ce qui me motive ?
Peut-être l'abbé, je sais pas. Ou tu es tombé dedans quand j'étais petit.
Cet abbé vit toujours ?
Non, malheureusement. Malheureusement, c'est un grand monsieur.
Vous pouvez nous rappeler son nom ?
Nolan, l'abbé Nolan.
D'accord.
D'Artenay, il était curé d'Artenay.
D'accord.
Personnage.
D'accord.
Oui.
Donc il a réussi à passionner combien de personnes ?
L'abbé ?
Oui.
Ben, il a monté déjà l'association pour l'étude des souterrains, la SFES. C'est des centaines de personnes.
D'accord.
Et puis, je pense qu'il a mis aussi au point le groupement archéologique d'Artenay, qui sont au moins une cinquantaine, on en parlait tout à l'heure.
D'accord. Oui. Et vous, là, aujourd'hui, vous êtes combien ?
Je ne sais pas combien on est. Une bonne centaine ?
130.
130. Sur la région d'Ono, donc.
Oui.
130 personnes passionnées par l'archéologie.
Voilà.
Par l'histoire et l'archéologie.
Par l'histoire et l'archéologie. Et en général, vous travaillez dans le domaine de l'histoire ?
Maintenant, comme je ne peux plus marcher, je travaille de plus en plus dans l'histoire. Oui. Donc, oui, tout à fait. Aussi, on travaille dans notre... Notre historien est d'or, là, c'est lui qu'il faudrait poser la question. Il travaille sur la bataille d'Hono, là, effectivement, ça c'est de l'histoire. Voilà.
Et il y a d'autres bénévoles qui ont des métiers très très éloignés de tout ça ?
Ah oui, bien sûr, il doit y en avoir. Hein. Il doit y en avoir. Certains travaillent au niveau de l'archéologie expérimentale.
D'accord.
Et ça, c'est super.
Qu'est-ce que c'est ?
Ben voilà. C'est justement la question qu'on se pose. Qu'est-ce que c'est que l'archéologie expérimentale ? Eh bien, par exemple, ici, on organise tous les ans un concours de tir aux armes historiques.
D'accord.
Donc, on fait nous-mêmes nos armes et on essaye de retrouver les gestes de nos prédécesseurs.
D'accord.
Et puis ensuite, on met ça en pratique.
Bien.
Voilà, ça, par exemple. Ici également, on a des forgerons qui essayent de retrouver le geste aussi pour couler le bronze, des choses comme ça.
Ce matin, j'ai vu quelqu'un qui travaillait avec une peau sur les genoux.
Oui.
Je n'ai pas pu voir exactement ce qu'il faisait. C'était quoi ?
Ça, je me demande bien ce qu'il faisait. Je crois que je taillais du silex avec
c'était
ma poche
vous.
Sur les genoux.
Ça ne m'étonne pas. Donc, vous étiez en train
voilà,
de
par
tailler,
exemple,
tailler du silex.
Voilà, je taille du silex, mais il n'y a plus de débouchés. Hein.
Très bien. Alors, dans quel but vous taillez ce silex ?
Pour me faire plaisir et faire plaisir aux enfants.
D'accord.
Voilà.
Très bien. Ben alors,
et
merci.
Et encore, on essaye de retrouver les gestes.
Ok.
Des gestes supposés, parce qu'on ne sait pas vraiment s'ils taillaient comme on fait, nous.
Non, bien sûr, ils n'avaient pas... De toute façon, leur corpulence était différente.
Ils étaient beaucoup moins ventrus, c'est vrai. C'est ce que vous voulez dire.
Non, pas du tout. Pas du tout.
Oui, bien sûr. Hein. Leur morphologie était différente.
Oui,
oui. C'est... oui bien sûr. Hein. Et puis, entre la taille employée par Néandertal et puis par Cro-Magnon et à 5000 ans, c'est complètement différent. Hein.
Et on peut évaluer combien de personnes vivaient dans le coin là ?
Ici ? C'est difficile à dire. On peut supposer, comme les clans indiens, entre une cinquantaine, 100 personnes.
D'accord.
Enfin, quoi que ce sont des agriculteurs, on peut-être plus nombreux.
D'accord.
Parce que là, ils n'ont plus besoin de chasser, donc le territoire, c'est l'agriculture. Oui, on peut être plus nombreux, on peut être plusieurs centaines à vivre ensemble.
Un grand merci à Jean-Pierre Dubois de l'association Le Jardin de la Préhistoire à Hono. Nous espérons le retrouver bientôt pour un interview sur un prêtre qui a été à l'origine de son intérêt pour la préhistoire et pour l'histoire. Bien, à bientôt, chers auditeurs, chères auditrices de Radio Grand Ciel, pour une prochaine émission des Vicinales.
Au revoir.